Pierre de Ronsard, une révolution poétique. À l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Pierre de Ronsard, France Mémoire, la mission des commémorations nationales, vous propose une série en 6 épisodes pour entrer dans l'œuvre de ce poète étonnant de la Renaissance. Cette série, fruit d'une collaboration avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature du XVIe siècle, est illustrée de poèmes interprétés par des étudiants de l'Université d'Angers. Vous écoutez l'épisode 3, Ronsard, de l'imitation à l'innovation.
Je fus premièrement curieux du latin. Mais, voyant par effet que mon cruel destin ne m'avait dextrement pour le latin fait naître, je me fis tout français, aimant certes mieux être en ma langue ou second, ou le tiers, ou premier, que d'être sans honneur à Rome le dernier. Donc, suivant ma nature aux muses inclinées, sans forcer autre part ma propre destinée, j'enrichis notre France, et pris en gré d'avoir en servant mon pays plus d'honneur que d'avoir.
Les vers que vous venez d'entendre sont tirés de l'élégie à Pierre Lescot, qui a été composée en 1560 et dont vous aviez déjà entendu plusieurs passages dans les épisodes précédents. Ce passage-ci me paraît très intéressant parce qu'il synthétise en quelques mots, finalement, les principes fondateurs de la poésie de la Pléiade, dont Ronsard a été le chef de file. D'abord, il y en a trois, hein, la connaissance incontournable de l'Antiquité gréco-latine, quand il dit « je fus premièrement curieux du latin ». Ensuite, l'inspiration poétique que confèrent les muses, quand il dit « ma nature aux muses inclinée ». Et enfin, troisième point, l'enrichissement inévitable de la langue française, qui est en son enfance, hein, qui n'est pas encore capable d'écrire une belle poésie, quand il dit « je me fie tout français », donc « je me dédie entièrement à enrichir la langue française ». Dès 1549, c'est Joachim du Bellay, l'ami et le rival de Pierre de Ronsard, qui va exposer ces trois grands principes que je viens d'évoquer dans un texte théorique qui s'intitule « Défense et illustration de la langue française » et qui est considéré, comme on l'a déjà dit dans l'épisode 2, comme le premier manifeste de l'histoire de notre langue française. Comme l'indique le titre de ce manifeste, la langue française est vraiment au cœur du projet littéraire formé par les poètes de la Pléiade. Et les trois points que j'ai évoqués se retrouvent développés, théorisés dans la défense et illustration. D'abord, il convient de se nourrir de la culture antique gréco-latine. Ce point porte aussi le nom de innutritio, se nourrir de cette culture gréco-latine. Deuxième point, consentir à se laisser inspirer par les muses, se rendre disponible à ce que l'on appelle en latin le furor, la fureur poétique, hein, cet état de transe, etc. Et enfin, troisième point, travailler d'arrache-pied. Les poètes de la Pléiade parlent de travail ascétique, hein, donc c'est vraiment très fort. Travailler d'arrache-pied ses vers, ainsi que l'enrichissement de la langue française. Et ce troisième point se nomme en latin, donc le premier c'était l'inutritio, le second c'était le furor, et le troisième c'est le labor, c'est-à-dire le labeur, le travail, sans lequel nul ne saurait être un bon poète. Il ne faut pas faire dire aux poètes de la Pléiade que seule l'inspiration suffit, que seul le furor suffit.
Mais quand Ronsard évoque son abandon du latin, on croit tout de même entendre des regrets. Il dit « Voyant par effet que mon cruel destin ne m'avait dextrement pour le latin fait naître, je me fie tout français ». Est-ce qu'il a renoncé, Ronsard, à la poésie latine par dépit ?
Le latin est la langue d'expression ordinaire des poètes humanistes. Hein. Jean Dorat, le maître adoré, admiré du collège de Coqueret, a vraiment composé exclusivement en latin et en grec. Donc, il est possible que Ronsard, à ses débuts, se soit essayé à la composition latine. Pour autant, je ne crois pas que le dépit de se reconnaître insuffisamment compétent dans la langue de Rome pourrait suffire à rendre compte d'un projet qui repose finalement d'abord sur une philosophie de l'histoire. Hein. Que disent les poètes de la Pléiade ? Les grandes cultures nationales se succèdent selon le principe de l'héritage transformateur. De la Grèce à Rome, de Rome à l'Italie de la Renaissance, et de l'Italie à la France. C'est un principe que l'on appelle la translatio studii et imperii. Hein ? Voilà, donc un vent de nouveauté souffle sur le royaume de France. Et c'est la France qui est appelée, à ce moment-là, à devenir la caput mundi, la tête du monde, hein, et donc sa langue nationale, eh bien, doit manifester sa puissance. Voilà tout. Hein. Donc ça ne peut pas être simplement le dépit de ne pas être bon en latin qui justifie un tel programme littéraire. La défense et l'illustration de la langue française constituent un projet collectif et national.
Alors là, il faut qu'on s'arrête quand même une seconde sur le titre de ce manifeste qui interpelle beaucoup.
Alors, illustration dans la langue française signifie rendre illustre, c'est-à-dire remarquable, prestigieux, capable. Hein. Et donc, d'un côté l'illustration, de l'autre la défense de la langue. Oui, vous avez raison, il faut rappeler pourquoi défendre le français. Il faut rappeler qu'à cette époque, le français est une langue en devenir, le latin règne. Et l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui va imposer le français comme la langue du droit, est assez récente, elle n'a pas 10 ans, elle date de 1539. Et puis de leur côté, il y a les réformés qui commencent à traduire les textes religieux en français dans un souci de vulgarisation. Et en même temps, le latin jouit d'un prestige absolu dans le monde savant. Et dans le peuple, ce sont les patois qui sont plutôt en usage. Donc le français, vous l'avez compris, n'a pas du tout atteint, acquis une position dominante encore. Donc la question, c'est comment obtenir une belle langue littéraire digne en un minimum de temps, afin de recueillir si possible de notre vivant, hein, du vivant des poètes, le mérite d'avoir contribué à illustrer cette langue française.
Et bien, comment faire ? On peut peut-être faire comme Rabelais à la génération précédente, enrichir son vocabulaire avec des mots qui sont soit importés, soit inventés.
Oui, absolument. Des mots archaïques ou nouveaux, des mots dialectaux, des mots empruntés aux langues anciennes. C'est tout à fait ce que prescrit la défense, hein, illustration. Et elle préconise aussi d'imiter ce que les Grecs et les Latins ont fait de mieux, finalement, hein, pour constituer un réservoir de figures, d'images, d'ornements qui vont progressivement devenir propres à conférer à la langue française ses lettres de noblesse. Donc, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que pour bien écrire en français, il faut, selon les mots de Dubellay, piller les dépouilles de Rome, maîtriser parfaitement le latin et le grec.
Alors attention, aujourd'hui, quand on utilise le mot « piège », ce mot nous évoque immédiatement des affaires de plagiat, de polémique. Ce principe de limitation, il n'est pas si facile à comprendre pour nos contemporains.
Absolument, c'est vrai. Une fois de plus, il faut là se remettre dans le contexte de la Renaissance. Chez les poètes de cette époque, la créativité tend à se confondre avec une pratique de l'intertextualité. C'est-à-dire que le poète ne s'inspire pas de ce qu'il voit, mais il travaille à partir de modèles textuels qu'il a gardés en mémoire, de livres qu'il a lus, de poésie qu'il a retenues. Et donc, surpasser la nature consiste en fait surtout à utiliser des éléments préexistants que l'on connaît, que l'on a trouvés chez les autres, d'où le fameux pillage, hein, que l'on recompose à sa manière, avec sa propre créativité. Hein. Mais ce sont des lieux communs, descriptifs, symboliques, métaphoriques, que nous a légué une tradition qui est codifiée et qui, elle, a déjà eu du succès. Quintilien, qui est un auteur tout à fait célèbre de latin, hein, qui a écrit un manuel sur l'art oratoire, avait déjà formulé au 1er siècle après Jésus-Christ ce principe de l'inutritio, finalement.
Mais le résultat, il risque pas d'être un peu trop artificiel ?
En un sens, oui, si vous voulez, mais plutôt artificiel, je dirais, au sens étymologique, hein, de ce mot, c'est-à-dire fait avec art. Voilà. Mais attention, vraiment, parce qu'il ne s'agit pas d'une imitation servile. Ce mot d'innutrition, qui est employé beaucoup par Joachim Dubellay, évoque vraiment un phénomène d'assimilation et de transformation. Il est très important. L'imitation révèle au poète d'abord les qualités objectives des textes qu'il va lire, des textes essentiellement de l'Antiquité, mais lui révèle aussi son propre tempérament, son propre génie. Donc, imprégné des œuvres qu'il a lues, qu'il a relues, il va donner à son tour, il aura envie de donner à son tour une poésie digne de rivaliser avec celle de l'Antiquité et surtout, évidemment, une poésie promise à la même éternité. Donc, l'imitation n'est pas une copie. Elle est ce qu'on pourrait appeler un jeu créateur. Et puis, elle a aussi une grande qualité, c'est qu'elle génère une connivence intellectuelle qui est liée aux habitudes, à une mémoire culturelle que tous partagent, les auteurs, les lecteurs.
Bon, en fait, pour résumer, on peut dire que l'inspiration poétique se confond avec l'imitation.
Alors, pas tout à fait, parce que finalement, dans l'opposition platonicienne entre l'art et le ravissement, hein, c'est-à-dire le travail, l'artisanat, et la fureur, l'inspiration, eh bien je dirais que l'imitation relève plutôt de l'art, tandis que l'inspiration relève évidemment du ravissement à soi-même. Donc le premier, l'art, est une techné, on dit en grec, c'est-à-dire une technique. Donc c'est plutôt méprisable, si vous voulez. Hein. Et cette technique, qui est importante, ne serait rien sans l'inspiration, sans ce furor qui, lui, ravit l'âme du poète à lui-même et constitue vraiment un don des muses. Hein, on ne peut pas commander le furor, on le reçoit ou on ne le reçoit pas. Donc s'arrêter à l'art ferait du poète un versificateur, un vil artisan du vers, tout sauf un poète. Dans la tradition grecque, vous savez peut-être que la poésie lyrique est imputée à un délire, à un enthousiasme d'ordre finalement divin qui va rendre le poète tout à fait incapable de maîtriser sa propre écriture. Et cette conception, l'humanisme renaissant, la remet au goût du jour. Ronsard reprend cette image qui vient d'un texte de Platon qui s'appelle Lion. Et dans Lion, Platon a une très jolie, utilise une très jolie figure pour parler de l'inspiration. Il en parle comme d'une chaîne magnétique. Il évoque l'attraction que produit la pierre de magnésie, c'est ainsi qu'il l'appelle, pour décrire l'inspiration. Cette chaîne d'inspiration, c'est-à-dire que, comme un aimant qui va aimanter à la suite tous les trombones de votre trousse, hein, eh bien, cette chaîne de l'inspiration est exposée par Ronsard dans son ode à Michel de l'Hôpital, et voici ce qu'elle... qui attire qui, hein, et qui attrape qui, comme la pierre de magnésie. Eh bien, d'abord, c'est Jupiter qui va ravir, attirer l'esprit d'Apollon. Apollon ravit l'esprit des muses, les muses ravissent l'esprit du poète, et les poètes ravissent l'esprit de la tourbe que nous sommes, hein, le vulgaire. Et Platon ajoutait un maillon intermédiaire, qui me semble tout à fait intéressant aujourd'hui dans ces podcasts, qui est celui du rhapsode. Le rhapsode, c'est celui qui était l'intermédiaire entre le poète et la tourbe que nous sommes, le public que nous sommes, c'est-à-dire celui qui déclamait les poèmes, et qui donc faisait le lien entre le poète et l'auditoire. Il me semble que dans ces podcasts, mes étudiants sont les rhapsodes de Ronsard, puisque ce sont eux qui déclament à vos oreilles les textes de Ronsard.
Et pour un poète chrétien, on peut quand même s'étonner de cette vision assez païenne de l'inspiration poétique, non ?
Eh bien, chez les poètes humanistes, les références à la mythologie grecque ou latine n'expriment pas une croyance religieuse, hein, ils fonctionnent plutôt comme des analogies. Donc, il faut comprendre que le christianisme renaissant, de la Renaissance, est imprégné par une pensée néoplatonicienne. Entre la philosophie de Platon et la métaphysique chrétienne, au fond, il y a de nombreux points de contact, et par exemple la distinction entre l'âme et le corps, ou l'aspiration de l'homme au divin. Et du point de vue des hommes de la Renaissance, le platonisme n'influence pas le christianisme, plutôt le platonisme préfigure le christianisme. Et ça porte un nom, on appelle cela la prisca theologica, hein, c'est ce qu'on appelle la théologie primitive. Et selon cette théorie, les poètes antiques qui ont décrit la révélation chrétienne avant qu'elle n'arrive, finalement, ont eu part à cette inspiration divine. Ils ont été inspirés par Dieu, ils ont touché du doigt cette révélation d'une façon déformée, puisqu'elle n'avait pas encore, elle n'était pas encore advenue. Donc vous voyez, la mythologie chez Ronsard se donne aussi à lire comme un langage symbolique. Et de ce langage symbolique, il va falloir retrouver le sens, bien sûr.
Il y a comme quelque chose qui relève de la divination, voire de la prophétie.
Oui, en remontant le fil de cette théorie du furor, on voit tout à fait bien comment le poète est propulsé au rang d'être sacré. C'est vraiment un élu, c'est un interprète du langage des dieux parmi les hommes. Donc, pour reprendre une expression chère à Ronsard que l'on a citée au début de notre premier podcast, la poésie pour lui est vraiment une langue à part. Elle renferme vraiment la révélation d'un monde supérieur qui ne peut nous être accessible comme ça directement. Chez Platon, cette conception s'exprime à travers cette théorie du furor, qui est une théorie des quatre fureurs. Elle est exposée dans le dialogue du Phèdre. Et dans ce dialogue, Platon introduit une hiérarchie entre les quatre fureurs. La fureur amoureuse, la fureur poétique, la fureur divinatoire et enfin la fureur prophétique. Depuis l'ode à Michel de l'Hôpital jusqu'à la réponse aux injures d'un certain prédicant, Ronsard, donc dans toute son œuvre, Ronsard y fait référence. C'est un emprunt à Platon qui est vraiment constant et qui est particulièrement explicite dans un poème écrit en 1559 que vous allez entendre tout de suite et qui s'intitule « La lyre ».
« Car, comme dit ce grand Platon, ce sage, quatre fureurs brûlent notre courage. Bacchus, amour, les muses, Apollon, qui dans nos cœurs laissent un aiguillon comme frelons et d'une ardeur secrète font soudain l'homme et poète et prophète. Je vois par là que poète je suis, plein de fureur, car faire je ne puis un trait de vers. Soit qu'un prince commande, soit qu'une dame ou l'ami m'en demande, et à tout coup la verve ne me prend. Je bais en vain et mon esprit t'attend, tantôt si muet, tantôt tenant sans faire vers qui me puisse ou plaire ou satisfaire.
Ronsard explique bien qu'il ne peut rien composer de bon, vous l'avez entendu, hein, sans la fureur poétique. C'est donc une difficile posture que celle du poète courtisan qui doit répondre aux commandes des grands ou de ses amis, alors même que l'inspiration peut le quitter. Et cette rime que nous avons entendue interne entre poète et prophète, répondant à l'adjectif « secrète » au vers précédent, est vraiment signifiante. Elle traduit bien la nature divine de cette activité poétique qui ne saurait en aucun cas jaillir sur commande. Hein. Ronsard le répète beaucoup dans son œuvre, hein, ce n'est pas possible qu'on ait l'inspiration sur commande. Et vous allez entendre que, quand l'inspiration vient, quel débordement, quel jaillissement! Vraiment, la comparaison ici, reprise à Horace, entre le poète inspiré et le fleuve tumultueux que plus rien n'arrête, est vraiment exemplaire de l'idée que Ronsard se fait de l'inspiration.
J'attends venir. Certes, je n'en mens point cette fureur qui la sibylle les poings. Mais aussitôt que par long intervalle, dedans mon cœur du ciel elle dévale, colère ardente, furieuse, agitée, je tremble tout dessous la déité. Or, comme on voit ces torrents qui descendent du haut des monts et flots sur flots se rendent à gros bouillons dans la vallée et font d'une rivière une corne à leur front. Et c'est pourquoi les peintres qui les feignent, fleuves taureaux au front cornu les peignent. Fumeux, bruyants, écumeux et fenteux, et de leurs mufles ouvrent au-devant d'eux un chemin d'eau sans que rien ne les empêche pour s'embouchés ou dans la rive fraîche d'un prochain fleuve ou au bord reculé du vieil Neptune au rivage salé. Ainsi, je cours de course débridée, lorsque la verve en moi s'est débordée, impétueux, sans raison ni conseil.
Vous avez entendu ce tumulte incroyable de l'inspiration, flot sur flot, écumeux, etc. Et dans la troisième partie, troisième et dernière partie de ce poème que vous allez entendre, c'est « T'as une femme qui vient d'accoucher, une jeune accouchée », que Ronsard va faire référence de manière analogique avec le poète quand l'inspiration l'abandonne. Comme la jeune accouchée, la parturiente hein, qui se relève, eh bien le poète se trouve libéré, en quelque sorte délivré, hein, comme la délivrance de la parturiente. Et il peut retourner à son activité de poète, délivré de sa transe. Il peut aller travailler la matière, la versification.
Quand la faveur me laisse tout soudain, plume et papier me tombe de la main. Du tout, je semble à la forte commère, laquelle ayant d'une tranchée amère jeté son part, fuit de son lit. Ainsi, je fuis la chambre, oubliant le souci de cette ardeur qui me tenouait en serre. Et lors du ciel, je dévale en la terre. Ah! Et en lieu de vivre entre les dieux, je deviens homme à moi-même, odieux. Mais cette ardeur se retire. Je ne saurais ni penser, ni redire les vers écrits, et ne m'en souviens plus. Je ne suis rien qu'un corps mort et perdu, dont l'âme vole autre part ébranlée, laissant son hôte aussi frais que gelé, et m'ébahit de ceux auxquels il est prompt de verser des vers quand il leur plaît.
C'est un véritable état de transe que décrit Ronsard dans ce texte, et à l'en croire, il n'y a pas de différence entre la Sibylle de la Grèce antique et le poète français de la Renaissance.
Il s'agit d'une version un peu christianisée, enfin d'une version christianisée de la fureur divine. La fureur amoureuse permet à l'âme de rencontrer non pas la Vénus de l'Olympe, mais une Vénus céleste qui, finalement, a beaucoup de points communs avec la divinité chrétienne. Et puis, cette fureur constitue vraiment un ravissement, c'est un enlèvement du sujet à lui-même. Donc, quand l'inspiration quitte le poète, il se réveille sans finalement toujours comprendre lui-même ce qu'il a écrit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ressent physiquement les effets de cette fureur, hein, souvenez-vous, je ne suis qu'un corps mort et perclus. Et d'autre part, si la fureur est nécessaire au poète, Ronsard décrit bien qu'elle est discontinue. Dans la lyre, Ronsard évoque aussi cette intermittence de son génie. Il traverse des périodes de fécondité, mais aussi des périodes de stérilité.
Et avec une telle conception de la création poétique, on comprend bien comment la poésie en vient à se prendre elle-même pour objet. Mais on peut se demander comment est-ce que cette conception de l'inspiration divine est vraiment sincère? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt un artifice qui permet de se mettre en scène comme poète afin de mieux se glorifier?
C'est ce qu'a pensé Boileau, finalement, à l'époque classique. Et bon, je dirais que c'est vrai, en partie. Hein. Pour Ronsard, la mise en scène de l'inspiration sert évidemment à louer le maître de l'énonciation, qui est le poète, qui est lui-même. Hein. Autant, sinon plus, que l'objet lui-même de son discours. La fureur est réservée à des hommes d'élite, à des hommes exceptionnels. Donc, de fait, elle permet au poète de se distinguer. Elle lui permet de légitimer la valeur de ses poèmes, et puis aussi de sacraliser l'image même de la poésie. Et si vous vous souvenez de notre débat qui court tout au long de nos épisodes, eh bien, elle lui permet aussi de se hausser plus haut encore que les faits d'armes auraient illustré son nom s'il avait été un soldat. Mais je pense que s'arrêter là serait tout de même méconnaître ce syncrétisme humaniste qui caractérise l'esprit de la Renaissance et finalement quand même en constitue peut-être la plus singulière beauté. Pour un homme de l'époque de Ronsard, le monde est à l'image de Dieu. Il n'y a pas de frontière nette entre la philosophie, la théologie et la science. Donc sans inspiration, il ne saurait y avoir de poésie, sinon celle des versificateurs sans âme. On l'a dit, hein. Mais l'inverse est vrai aussi. Sans travail, que devient l'inspiration? Elle est lettre morte. Le poète lui-même ne comprend pas ce qu'il a écrit.
Donc, en fait, l'inspiration, elle suffit pas du tout.
Pas du tout, de loin, hein, de loin pas. L'acquisition de la culture humaniste et aussi du système de référence qui la constitue ne peuvent se faire qu'au prix d'un labeur ascétique. On en a parlé au début de cet épisode. On a parlé de ce labeur, hein, de ce labeur ascétique. Avec l'enrichissement de la langue française et le don des muses, le labeur, le travail, est vraiment cette troisième condition qui permet au poète d'atteindre l'immortalité. Et pour les poètes de la Pléiade, la versification, c'est vraiment un métier. Hein. Dubellay parle du métier de poète. Donc, c'est un métier qui a ses lois et qui nécessite une initiation laborieuse. Par exemple, la rime doit être riche, pas équivoquée, par exemple, parce que ça ressemblerait trop à Marot. Le vers, la strophe doivent être harmonieux. Le poète doit aussi maîtriser les différents genres. Donc, en ce qui concerne ces derniers, eh bien, la Pléiade introduit vraiment une révolution. Elle remplace les genres et les formes fixes du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge, par, vous le savez, les genres imités de l'Antiquité, que sont l'épopée, le couple tragédie-comédie pour le théâtre, et puis aussi la gamme des différents genres poétiques, dont l'ode, qui était assez appréciée. Et puis, il faut mentionner un petit peu à part le genre moderne du sonnet. Hein, ce genre moderne est accepté, même s'il n'est pas antique. Pourquoi ? Parce qu'il a été illustré par Pétrarque. Pétrarque, qui est considéré comme le premier humaniste hein, du début de la Renaissance italienne, au XIVe siècle. Et puis viennent ensuite les petits genres antiques, tels que l'épigramme, les élégies, les épîtres, les satires, les églogues, voilà. Donc là encore, paradoxalement, comme on l'avait dit au sujet de l'illustration de la langue française, eh bien, l'héritage national que pourraient être les sotties, les ballades du Moyen-Âge, cet héritage national est rejeté au profit d'un système poétique qui nous vient de l'Antiquité, qui nous vient de l'Italie pétrarchisante et qui va s'imposer jusqu'au XIXe siècle.
Donc quand même, Ronsard, il a une vision quand même assez très, très élitiste de la poésie. Il a cette écriture recherchée, toutes ces références multiples. C'est la définition même de la sophistication.
Oui, quand Ronsard publie ses odes en 1550, il va vraiment opérer une double révolution hein, qui va toucher à la fois l'esthétique des poèmes avec ce style hautain dont on a parlé, nourri de références antiques, mais une révolution qui touche aussi à la condition du poète. Ce dernier, finalement, avec cette théorie de l'inspiration que nous avons exposée, eh bien, le poète n'a de compte à rendre qu'à l'inspiration divine, au mépris absolu du jugement des hommes. Ça, cela change beaucoup, car le poète du Moyen-Âge écrivait pour ses contemporains, ce qui n'est pas le cas du poète de la Renaissance. Et donc, ce n'est pas du jugement des hommes que doit provenir la gloire que revendiquent fièrement Ronsard et ses amis, qu'ils appellent de leur vœu. Hein. Cette gloire, elle vient d'où? Elle leur est procurée comment? Par le suffrage de ceux seuls qui ont qualité pour juger. Qui sont-ils? Ils n'appartiennent certainement pas au grand nombre. Ils n'appartiennent pas aux vulgaires, aux vulgus. Ils n'appartiennent pas non plus à la cohorte des courtisans qui entourent le roi. Pourquoi? Parce que tout cela... vont se montrer très conservateurs dans leur goût, mal disposés à l'égard de ceux qui dérangent leurs habitudes d'esprit. Hein, ça, Ronsard l'explique très bien dans son art poétique. Non, ceux qui vont être les grands électeurs de la gloire, eh bien, ils sont en nombre infime aux yeux de Ronsard et des poètes de la Pléiade. Il s'agit, vous vous en doutez, des humanistes éminents qui composent ce qu'on appelle la République des Lettres, cette République des Lettres qui plane au-dessus des royaumes, qui étend sa juridiction jusqu'au futur. Et finalement, la puissance de ces grands électeurs de la gloire et dans leur dispersion. Ils sont où? Ils sont à Louvain, ils sont à Oxford, ils sont à Salamanque, ils sont à Lyon, ils sont à Bologne, à Francfort ou à Paris.
Et pour terminer, Luce, vous avez choisi de nous faire entendre un texte qui évoque le tarissement de l'inspiration.
Et oui, parce que malgré cette conception élitiste de la poésie et puis le plaisir que Ronsard prend à chanter la lyre, à chanter ce torrentiel jaillissement de l'inspiration, il n'a pas caché non plus qu'il avait été victime de phases plus ou moins longues dans lesquelles son inspiration est en crise, elle se tarit. Et vous allez l'entendre dans cette épître à son ami Jean Galant, qui est le principal du collège de Beaucourt. Eh bien, notre prince des poètes suggère ici, au même titre, suggère ici que son inspiration, au même titre que les autres capacités de son corps, eh bien, va voir sa vigueur se tarir à mesure que la vieillesse s'installe.
Mais quand 35 ans, ou 40, ont perdu le sang chaud qui était aux veines répandues, et que les cheveux blancs de peu à peu s'avancent, et que nos genoux froids à trembloter commencent, et que le front se ride en diverses façons, lors la muse s'enfuit, et nos belles chansons. Pégase se tarit, et il n'y a plus de traces qui nous puissent conduire au sommet de Parnasse. Nos lauriers sont séchés, et le train de nos vers se présente à nos yeux, boiteux et de travers.
Vous venez d'écouter le troisième épisode de la série Pierre de Ronsard, une révolution poétique. Un podcast de France Mémoire avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature de la Renaissance. Lecture des poèmes par
Antoine Marie, Olivier Bétance
et
Aubane Martin.
Musique de l'ensemble, Douce Mémoire. Conception, Caroline Garde-Le Breton, Luce Albert, Marie Catelin. Réalisation, Erwan Guillot.